Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien sûr. Avec au sommaire du jour, eh bien, des éléphants et des lions dos à dos. Les Ivoiriens et les Sénégalais n'ont pu se départager hier soir à Charletti sur une pelouse parisienne une fois de plus envahie par des spectateurs turbulents, un peu trop enthousiastes. Mais cela a empêché surtout le jeu d'aller à son terme. Pour les Morabitounes, eh bien, 2 matchs et 2 victoires. La Mauritanie a battu le Congo Brazza après le Bénin. Et c'est une nouvelle victoire pour cette équipe de Mauritanie. Enfin, ces matchs ont eu lieu parce qu'on le verra parfois, à cause de problèmes de visa, ils n'ont pas lieu. L'arbitrage vidéo en test grandeur nature en France, test ce soir lors de France-Espagne pour un match de prestige. La technologie au secours des hommes en noir, ce qui n'écartera pas la polémique, estime le sélectionneur de la Roja. Bruno Derrien, d'ailleurs, vous allez nous expliquer cette nouveauté et surtout son utilité. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour.
Bienvenue
à tous.
Bienvenue dans Radio Foot.
Avec plaisir. Hein,
de temps en temps quand même, on se dit l'arbitrage au centre des débats. Et évidemment, on fait appel à vous. On parlera aussi d'Atem Ben Arfa qui ne se cache plus en gros plan face à la caméra. Il se plaint de son sort au PSG, suscitant beaucoup de critiques, mais aussi la compassion de ses fans. A-t-il raison de se plaindre, ce joueur au talent fou, mais aussi très irrégulier? Eh bien, nous en parlerons. Et puis, nous avons un invité dans ce studio parce que nous évoquerons un livre qui est en cours de réédition, qui vient d'être réédité d'ailleurs, qui s'appelle Copa par Raymond Copa, mais quand même quelqu'un l'a aidé à écrire ce livre. C'est un de nos confrères, Patrick Burkhalter, c'est bien ça? Bonjour.
Bonjour.
Mais vous allez nous le dire, Raymond Copa, il avait sûrement autant de mal à le dire que moi et du coup vous appelez autrement.
Oui, mais il m'avait surnommé Burt Lancaster.
Vous lui ressemblez tout à fait, hein, c'est frappant.
Il ressemble à Burt Lancaster.
Oui, vraiment, c'est frappant. Il y a un petit air, c'est vrai.
Et de loin.
Bienvenue dans Radio Foot, en tout cas, pour nous parler de ce livre. Et puis dans ce studio, il y a aussi, alors Olivier Pron, vous l'avez entendu, mais Olivier, on l'entend toujours pendant les titres. Bonjour,
oui,
Olivier.
Je suis plus Alain que de l'ombre.
Mais il y a aussi Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Salim Bongali. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir de vous revoir.
Merci. Le faillot, c'est comme Penaud. Vraiment la crise des faillots.
J'ai envie de revenir.
Moi, je suis aussi très contente d'être revenue ici. Eh bien, Radio Foot, c'est parti.
Encore un envahissement interne.
Il y a un autre striker sur la pelouse du stade de Charletti.
C'est-à-dire que la sécurité est en train de dormir.
Passe dans les mailles du là, filet sécuritaire.
Et là, tu le vois, il commence à s'approcher pour attendre la fin du match pour envoyer le terrain.
Ouais, quand même, il y en a eu beaucoup quand même dans ce match.
Et il y a l'arbitre qui arrête le match.
Ouais, l'arbitre qui arrête le match, peut-être la sécurité des joueurs est en jeu. Ouais.
Et voilà nos confrères sénégalais qui étaient aux commentaires hier soir au stade Charletti de Paris. Il ne manquait que 2 minutes de temps de jeu réglementaire. Mais Tony Chaperon, l'arbitre français, a sifflé la fin de la partie. Le match amical donc entre Éléphants et Lions de la Teranga n'aura pas été à son terme 1-1, score final. C'est un peu dommage quand même, Habib, vous y étiez. Hein, vous étiez évidemment côté sénégalais, physiquement, je dirais. Mais est-ce que c'est quand même dommage de voir qu'un match s'arrête comme ça? Surtout que c'était le troisième avertissement là, de Chaperon.
Oui, je dirais même plus que c'est plus que dommage. Ce sont malheureusement des...
Des drôles de pratiques.
Des drôles de pratiques. Ce sont des faits, alors après, les adjectifs, mais pour moi, c'est des faits graves parce qu'on ne sait pas, en termes de sécurité pour tous ces joueurs sur le terrain. Alors certains avaient envie de faire des selfies, mais vous pouvez avoir un déséquilibré qui a envie de faire autre chose, et ça il faut toujours y penser parce que ça existe. Donc malheureusement, je crois que Charletti est un petit peu coutumier du fait. C'est un stade qui est un stade un petit peu décrit comme passoire. Le service de sécurité n'était pas, c'est pas eux les responsables, mais n'était pas du tout adapté à l'événement. Il se trouve que, par exemple, moi qui avais des places laissées par la Fédération sénégalaise de football, j'ai pas pu du tout les récupérer. C'était impossible. J'étais avec mon fils. Il y avait une queue devant. Il y avait que 5 ou 6 guichets ouverts pour ce match-là. Alors que vous savez que vous avez une communauté d'Ivoiriens et de Sénégalais et d'Africains et d'amateurs du football qui aimaient voir ce match parce que c'était une grosse affiche. Il faut pas l'oublier. Et que j'ai dû me résoudre à aller voir à l'entrée presse et de dire, bonjour, je m'appelle Habib Bey. J'ai essayé avec mon fils de récupérer et mes places. Malheureusement, je ne peux pas avoir accès au stade. Donc, gentiment, ils m'ont mis dans la zone presse et j'ai pu voir ce match qui était un match engagé, on va dire. Alors, pas forcément d'une immense qualité, Mais c'est vrai que de le voir s'arrêter, c'est dommage.
On va venir à l'essence du match, mais Salim, vous vouliez le rappeler justement. Ce n'est pas la première fois qu'à Charletti, on rentre sur la pelouse.
Non, c'était déjà arrivé. Déjà pour une rencontre amicale entre deux nations africaines, Ghana-Mali, il y a quelques années, où de même le match a été interrompu pour cause d'envahissement de pelouse. Je vais prolonger le propos d'Abib concernant ce stade qu'on surnomme parfois passoire. À Charletti, il faut rappeler qu'il y a deux clubs qui jouent actuellement dans ce stade. Il y a le Paris FC, club de national, le troisième échelon français qui y joue, et le club du PSG féminin qui joue également.
Mais c'est une jolie enceinte rénovée il n'y a pas si longtemps.
Exactement, mais c'est une enceinte à la base d'athlétisme. C'est vraiment fait pour ça.
C'est d'ailleurs au stade Charletti qui est le siège de la Fédération française d'athlétisme.
Voilà, avec également le CNOSF qui s'y trouve également. Donc vous avez ces deux clubs qui jouent avec en moyenne des affluences aux alentours des 500 spectateurs. C'est bien 500, je ne me suis pas trompé en le disant. Hier, vous aviez un nombre bien plus supérieur, bien plus important.
C'est un stade de 20 000.
C'est ça, c'est un stade de 20 000. Oui. En moyenne, vous êtes à 500 spectateurs. Oui. Les services de sécurité ne sont pas embêtés en règle générale sur ce genre de rencontre. Hier, c'était donc beaucoup plus le cas. Oui. Et les services de sécurité n'ont tout simplement pas été mis au courant, j'ai envie de dire. Enfin, c'était pas, ils n'étaient pas habitués à ça.
Même l'ouverture des guichets, les guichets sont ouverts, je crois, 45 ou une heure avant le match. Pour un match, vous allez avoir dans un stade 10 ou 15 000 personnes.
Bien sûr. Apparemment, il y avait 7 000, 8 000, entre 6 et 8 000.
Oui, mais c'était à peu près ça, puisque vous aviez la principale tribune qui était remplie, et puis celle d'en face qui était ouverte,
ouvert
il y avait beaucoup de monde.
Je pense qu'il y avait plus que 6 000,
À la mi-temps, ils ouvrent, en fait, pour laisser les gens rentrer à Charletti.
20 fois plus que d'habitude, donc
c'est ça. Et malheureusement, la ville de Paris, puisque c'est la ville de Paris qui gère Charletti, n'a tout simplement pas eu les réflexes qu'il fallait.
Non, mais la vraie question à ça, excusez-moi.
Je vais demander justement qui s'occupait de l'organisation.
C'est la ville de Paris.
C'est la ville de Paris, parce que l'organisation, c'était une boîte privée, non, me semble-t-il. En tout cas, nous, la presse, on passait pour se faire accréditer
par une société privée.
Exactement.
Je précise bien, pour l'accréditation, c'est un service privé. En revanche, la sécurité était bel et bien gérée par la ville de Paris.
Oui, Bruno. C'est la question que je voulais poser. Qui organise le match? Donc, c'est la personne qui est responsable. C'est pas à la ville de Paris de gérer la sécurité de ce stade.
La FIFA a décidé d'ouvrir une enquête.
C'est les organisateurs qui organisent le match, qui doivent mettre en place un dispositif de sécurité qui soit adapté au match. J'ai arbitré deux fois à Charletti, deux finales de la Coupe des Dom-Tom. Il y avait plus de 10 000 personnes dans le stade. Ce match était organisé par la FFF. Il n'y a pas eu un seul incident. Il n'y a pas eu un seul envahissement de terrain. Donc les organisateurs sont responsables de la sécurité du stade. C'est pas la ville de Paris.
Je précise ça. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple du championnat et notamment du Paris FC, donc qui joue chaque semaine ou toutes les deux semaines. Le Paris FC certes utilise cette enceinte, mais la sécurité est gérée par Paris. C'est un système un peu hybride, c'est particulier. Ben là, pour le Sénégal Côte d'Ivoire d'hier, c'était la même chose.
En tout cas, Bruno, donc Tony Chapron, votre confrère, on va dire, décide à la deuxième fois, il dit bon, il n'y aura pas de troisième, et effectivement, il arrête le match, c'est tout à fait son droit.
Ah ben, il a pris sa responsabilité, il ne peut pas faire autrement. La sécurité des joueurs n'étant pas réunie, donc.
Non, mais il a rempli son rôle. Parce que moi, j'étais dans les tribunes, je peux vous garantir qu'il y avait énormément de monde sur cette pelouse. Et ce qui se passait, c'est que vous aviez aussi des stadiers qui étaient un petit peu en danger parce qu'ils voyaient arriver, en fait, les supporters.
Par vague.
Mais à pleine vitesse. Et lorsque vous êtes arrêté et que vous prenez quelqu'un qui arrive à 25 km/h en termes de vitesse et que vous le prenez de plein fouet, moi, j'ai vu des stadiers qui étaient pas. Qui était en difficulté, et puis surtout les joueurs. Lorsque vous avez ça, vous avez un joueur vous avez des supporters qui arrivent pour aller faire un câlin il arrive par derrière, vous savez pas ce que ça peut représenter.
On fustige les organisateurs, mais il faut aussi fustiger le comportement des pseudo-supporters. Ils n'ont pas à avoir une attitude pareille.
Évidemment.
Je suis désolé.
Évidemment,
alors, il faut mettre quoi, des grillages pour les enfermer.
C'est ça le problème, c'est qu'on parle de passion. Alors, comme ça a été évoqué, oui, ils sont là, ces supporters, évidemment, pour câliner les joueurs, pour les remercier.
Mais ils le feront après le match, quand le match sera terminé.
Parce qu'ils les voient rarement, en plus, là, c'est ça évidemment.
Les gens qui vivent là et qui ont la possibilité de voir leur équipe nationale, c'est sûr que.
Eh oui. Et oui, ils sont tentés, la communauté sénégalaise,
toucher de près leurs joueurs.
Et il y a une image qui, sur papier, pouvait être dangereuse, effectivement. Alors, heureusement, il n'y a rien eu, mais c'est Chékou Kouyaté qui, à l'issue du match, est entouré par quasiment une centaine de supporters sénégalais. Là encore, c'est vraiment pour le saluer, pour le remercier et autres. Mais comme
dit Habib, il suffit d'un dans le lot qui décide avec ne serait-ce qu'un canif ou n'importe quoi, parce que s'ils peuvent rentrer sur le terrain aussi facilement, ils ont peut-être pu rentrer très facilement dans l'enceinte aussi, avec tout est possible. Donc il y a un vrai problème de sécurité autour de ce type de match.
Et c'est le stade de Charletti. Et je précise, le stade Charletti est malheureusement connu pour être on va dire facile d'accès.
Alors Habib, revenons au terrain, au ballon et aux joueurs. Bon, c'était un match amical. Comment s'est déroulé selon vous cette confrontation qui était très attendue depuis 2006, si je me trompe pas, le Sénégal ne bat pas la Côte d'Ivoire. Donc on sait à la CAN, c'est quand même deux équipes, une qui est sortie avant l'autre. D'ailleurs, les champions sortants de la CAN précédente qui étaient les Ivoiriens, les Sénégalais qui étaient favoris, qui finalement aussi sortent avant la finale. Et c'était comment cette finalement ce face à face qu'on aurait peut-être
souhaité. Il y a eu une opposition de style, c'est qu'on a vu des Ivoiriens qui étaient très engagé sur le plan physique. Je trouve que les Sénégalais ont un petit peu mieux joué au football. Après, le vrai problème qu'il y a encore dans cette sélection, et j'en discutais avec Aliou hier, le sélectionneur, Aliou Cissé, c'est que dans les 30 derniers mètres, il se passe plus grand-chose du côté du Sénégal. On est souvent... on attend les exploits de Sadio Mané, de Keita Baldé. Et c'est vrai que hier, il a peut-être manqué ça aux Sénégalais. Les Ivoiriens ont mis de l'engagement. On a senti aussi une équipe de Côte d'Ivoire qui se cherche un petit peu. Il faut pas oublier qu'ils viennent de nommer un sélectionneur qui était présent d'ailleurs hier soir.
Dans les tribunes, oui, Marc Villemot.
Donc, ça a été une grosse déception pour eux, cette CAN au Gabon. Pour les Sénégalais, c'est une forme de continuité. Essayer de continuer à progresser. Je crois qu'Aliou a un vrai objectif à ce moment-là. Et je pense que l'objectif d'hier, en tout cas dans l'envie pour les deux équipes, était rempli. Après, on n'a pas assisté à un grand match sur le plan technique. J'ai vu beaucoup de joueurs glisser sur cette pelouse. Alors, je ne sais pas si c'est une question de crampons ou une question de surface. Mais ils se sont un petit peu annihilés des deux côtés. Maintenant, c'était un bon match amical en termes d'engagement.
Moi, je trouve qu'on voit jamais dans ces conditions-là de gros matchs. Ce sont des matchs amicaux. On l'a dit, il n'y a pas d'enjeu. On les fait en Europe et on va y revenir parce que c'est plus pratique que d'aller à Dakar ou que d'aller en pleine saison jouer à Abidjan. Et puis pour rappeler que les Sénégalais ont été éliminés en quart de finale au tir au but face aux futurs champions. Et c'est vrai que ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Ça reste quand même une équipe, pour rebondir sur la continuité dont parlait Habib, qui est effectivement, voilà, ils n'ont pas pu aller plus loin parce qu'ils ont été éliminés au tir au but, mais c'était l'équipe la plus emballante du premier tour et ils sont là et bien là. Il y a un vrai chantier de reconstruction chez les Ivoiriens, ça n'est pas du tout la même chose du côté des Séganais. On rappelle que Marc Wilmots prend ses fonctions. Moi, j'aime rappeler ça, on l'a dit ce matin chez Juan Gomez, hein, c'est un Belge, l'histoire belge commence le 1er avril. Vous prenez ça comme vous voulez.
Le seul point commun que je trouverais entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est que côté Ivoirien aussi, si, quand vous arrivez à 15, 20 mètres, on va dire, des buts adverses, c'est là où tout d'un coup, ça pêche, on n'a plus forcément de possibilités. Le seul qui réussit à déclencher cette étincelle potentiellement, c'est Wilfried Zaha. Il l'a fait récemment lors du match amical face à la Russie en marquant un but.
Il y avait pas mal d'absents quand même côté ivoirien. Hein.
Évidemment.
Notamment.
Il y avait hier, mais même sur les dernières semaines.
Ouais. Hein. Je pense que Marc Wilmots lui-même ne sait pas avec qui il va pouvoir jouer.
Mais on en sourit, mais malheureusement, c'est effectivement le cas. Aujourd'hui, avec cette équipe de Côte d'Ivoire, il n'y a pas sept attaquants absolus qui, malheureusement, vous assurent un poste de numéro 9 et vous assurent des buts
Je crois qu'aucune équipe africaine n'a cet attaquant-là. Lorsqu'on regarde.
À part Pierre-Emerick Aubameyang.
Oui, mais même Aubameyang a eu du mal avec le Gabon. J'ai regardé un petit peu.
Il n'est pas venu jouer vendredi.
Cameroun, Aboubakar.
Ouais, mais on parle quand même de joueurs qui ont été. Samuel Eto'o, de Drogba.
Le Cameroun à la CAN.
Il n'y a pas les héritiers.
Le Cameroun à la CAN a changé de pointe à tous les matchs.
Exactement. On n'a toujours pas les héritiers de ces joueurs-là. Des Eladji Diouf qui étaient des grands attaquants, des joueurs quand même qui avaient une certaine aura sur leurs équipes. Aujourd'hui, on a plus des collectifs. Je ne suis pas inquiet pour la Côte d'Ivoire de ce que j'ai vu. Sincèrement, je me dis que si Marc Wilmots trouve les clés, c'est une équipe qui sera de nouveau compétitive sur le continent africain. Et puis après, je vous dis, le Sénégal, ce qui est bien, c'est qu'il y a une continuité. Aliou Cissé est très très bien dans ses baskets, il sait où il veut aller. Et pour avoir discuté avec lui hier, il faut que les Sénégalais soient rassurés au vu de la performance du Sénégal.
Alors on a aussi une autre équipe à laquelle on s'est intéressé, c'est la Mauritanie. Les Morabitoun, Salimi, ils ont remporté une deuxième victoire. Alors, deux victoires en deux matchs. On se souvient avoir reçu ici dans Radio Foot Corentin Martins au moment où il prenait les rênes de cette équipe. Le rêve était de participer à une CAN. Bon, ça s'était pas passé, mais en tout cas, on a l'impression, alors ils ont battu le Bénin, les écureuils du Bénin sur le score de 1, puis hier c'était avant-hier les Diables Rouges du Congo sur le score de 2-1.
C'était hier, juste pour info, c'était le premier match de Sébastien Minier à la tête des Diables, Diables Noirs congolais du Congo Brazza.
Le nouveau sélectionneur. On a une équipe en nationale en progression, on peut dire ça, selon vous, Salim?
Mais oui, surtout, vous évoquiez le cas Corentin Martins. Depuis qu'il est arrivé, cette équipe, donc avec les victoires que l'on a évoquées il y a quelques instants, par le passé, cette équipe de Mauritanie n'avait aucune chance à chaque fois lors des éliminatoires. On savait, lorsqu'on voyait un groupe, par exemple, de la CAN, potentiellement lorsque la Mauritanie passait un cap, passait les premiers tours éliminatoires, on se disait, bon, la Mauritanie dans le groupe, c'est bon, on a 3, voire 6 points assurés. Aujourd'hui, on a dans notre réflexion le fait de se dire « Ah ben peut-être qu'on n'a pas ces 6 points là ou ces 3 points assurés ». Déjà, cette évolution dans la réflexion est déjà une grande chose et ça veut donc dire aujourd'hui qu'effectivement, il y a eu cette évolution positive grâce notamment à Corentin Martins et ces victoires que vous avez évoquées.
Et Aviv, c'était une équipe d'ailleurs, elle avait commencé à sortir du lot sur le plan continental, un Shan,
oui.
En se qualifiant pour un Shan, ce qui fait qu'en fait, il y a une génération peut-être.
Il y a une génération, il y a des jeunes joueurs et puis surtout, Salim le disait, c'est Corentin Martins, moi qui est bien connu du côté de Strasbourg puisqu'on a joué ensemble, on a gagné la Coupe de France à Strasbourg ensemble et c'est un entraîneur qui aujourd'hui va passer par le jeu parce que c'est ce qu'il aimait en tant que joueur. Donc c'est une bonne chose parce qu'on a vu que dans cette CAN par exemple, on avait beaucoup misé sur l'impact physique et que les équipes qui ont essayé de jouer se sont retrouvées en difficulté et moi je trouve que c'est ça l'essence du football et que aujourd'hui, on gagne des compétitions aussi par le jeu. Et ce qui est sûr, c'est que Corentin Martins, on voyait ça comme une forme de destination exotique pour lui, mais on voit qu'il fait du bon travail et ça, il faut le souligner.
C'est vrai que, comme souvent, on se dit, ce sont ces techniciens français ou anciens joueurs français qui veulent devenir entraîneurs qui réussissent à trouver un point de chute en Afrique parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Alors, Corentin Martins, est-ce qu'il était vraiment désiré ailleurs? Peut-être pas. Mais avec la Mauritanie, il a réussi à mettre quelque chose en place. Mm-hmm. Et ça, c'est aussi à saluer.
Ouais,
et
on pense... très bon choix.
Et on espère que Sébastien Migné fera pareil. Il est dans la lignée des adjoints de Claude Leroy qui décident à un moment de voler de leurs propres ailes. Hein. Et bien sûr, il y a eu Hervé Renard, il y en a eu d'autres. Mais Sébastien Migné, il vient de prendre, c'était son tout premier match. Alors, commencer par une défaite à Nouakchott, il n'y a rien de déshonorant là-dedans. Et il a sans doute beaucoup de travail, mais il a des joueurs qui semblent entièrement acquis à sa cause et c'est le principal. Je ne sais pas si vous avez prévu, reviens, on a puisqu'il y faisait allusion tout à l'heure, Salim Boumgali sur les tours qui précèdent la phase de poule de qualification à la CAN 2019 pour vous dire qu'aujourd'hui je vous comprends, vous êtes mauricien d'origine, les Comores se sont qualifiés aux dépens de l'île Maurice pour la phase de poule pour la phase
c'est
de poule qualificative. Je vous la devais bien celle-là, avec Alani vous arrivez en avance, avec moi vous arrivez en retard. Les Comores qui avaient gagné chez eux et qui sont allés faire match nul à Port-Louis cet après-midi et qui donc iront jouer la phase de poule, ce sera compliqué. Le Maroc et le Malawi, il y a un qualifié puisque en fait la quatrième équipe de cette poule ce sera le Cameroun qui est qualifié d'office, donc les Marocains semblent avoir un boulevard. On rappelle que Madagascar s'était qualifié ce week-end pour sa deuxième phase de poule de rang et qu'en ce moment le Soudan du Sud et Djibouti se disputent le dernier ticket pour cette phase de poule. Le match devrait se terminer d'un instant à l'autre et Djibouti avait remporté le match aller. Madagascar jouera avec le Sénégal justement, la Guinée équatoriale et le Soudan et le Soudan du Sud ou Djibouti avec le Mali, le Gabon et le Burundi.
Une petite question aussi pour vous Salim qui est un spécialiste de Londres qui connaissait bien cette ville. Des équipes africaines y ont disputé ou ont voulu y disputer des matchs amicaux. Alors on a eu le Sénégal qui a rencontré le Nigeria. Les Sénégalais déjà n'ont pas pu partir tous ensemble. Le groupe était incomplet parce qu'il a manqué des visas. Et puis Nigeria-Burkina Faso a été annulé purement et simplement parce que notamment l'équipe du Burkina n'arrivait pas à être au complet et à aller sur place. C'était une mauvaise idée de choisir Londres ?
En fait, on le voit très souvent avec les nations notamment anglophones. Le Nigeria, il va souvent et il joue souvent des matchs amicaux.
Ils y étaient d'ailleurs.
Les nations anglophones, ils vont souvent. Donc, on va dire, c'est logique. Et si vous voulez affronter le Nigeria, vous devez être obligé d'aller à Londres. Rappelez-vous de ce cas particulier, il y a une petite année, même pas, Serge Aurier avec le Paris Saint-Germain qui n'avait pas eu le droit d'aller à Londres.
Le Nigeria est un pays du Commonwealth. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les Nigériens d'avoir un visa. Souvent, ce sont des erreurs administratives des fédérations comme le Sénégal ou le Burkina Faso qui s'y prennent au dernier moment. Et forcément, c'est plus compliqué d'avoir un visa. Donc, dans les temps, ils n'obtiennent pas le visa.
Et ça avait été la même chose. Alors, pas en termes de temps, mais tout simplement en termes de papier, de demandes administratives excessives de la part de Londres pour permettre à Serge Aurier d'entrer. Mais ça arrive souvent en fait que des matchs comme ça, même de second rang, soient régulièrement annulés ou
surtout à Londres ou en général en Europe.
En Angleterre, je parle de l'Angleterre.
Oui, qui ne fait pas partie de l'espace de Schengen.
Parce que effectivement, on demande des visas et malheureusement, comme le disait Olivier, souvent il y a des demandes qui sont très tardives pour certaines nations.
C'est la fin de la première partie de Radio Foot International, mais soyez au rendez-vous de la deuxième partie parce qu'on a encore plein de choses à vous raconter et à discuter dans cette émission Radio Foot International. Juste après les informations, à tout de suite.
RFI vous propose
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International dans la deuxième partie de cette émission et nous sommes toujours avec nos invités, avec Habib Bey, Salim Boumgali, avec aussi Bruno Derrien, Patrick Burkhalter, hein, j'ai réussi à le dire, vous voyez, votre, malgré votre sourire.
Burt Lancaster, vous
avez... Oui, c'est mieux.
Et plus Burt que Lancaster.
Tout le monde s'en souviendra. Et puis, évidemment, vous l'avez entendu, Olivier Prom. Un match amical aura lieu ce soir au Stade de France. Vous le savez, on l'a évoqué longuement hier. C'est une rencontre de prestige entre la France et l'Espagne, entre les Bleus et la Roja. Mais surtout, c'est un rendez-vous important sur le plan technologique. Car pour la première fois, eh bien, il y aura, dans un match officiel en France, le retour à l'arbitrage vidéo, un test grandeur nature. Alors, on le sait, hein, l'équipe de France s'était déjà pliée à ça, mais c'était en Italie contre l'Italie. Cette fois, ce sera sur la pelouse de Saint-Denis. Deux hommes qui se parlent, l'arbitre central et l'arbitre assistant vidéo. Déjà, Bruno, on a l'arbitre central, mais celui qui regarde la vidéo est lui aussi un arbitre formé spécialement, c'est
ça ? C'est un arbitre aussi officiel. Ils sont même deux. C'est deux avec un assistant qui sont dans un camion.
Tous des assistants là-dedans.
Voilà, dans un camion régie à l'extérieur du stade et qui sont en lien audio avec l'arbitre central. Ce sera le cas ce soir.
D'Allemagne, parce qu'en France, on ne doit pas avoir. Il y a une formation qui débute ces jours-ci à Clairefontaine.
Tout à fait.
Je crois pour former des arbitres, mais donc ceux qui seront présents ce soir viennent d'Allemagne.
D'accord. Oui, c'est un quintet allemand qui dirige les débats ce soir.
Mais on a toujours des arbitres de surface ?
Non, il n'y a plus d'arbitre de surface.
Ah, d'accord.
Donc, il y a des arbitres de surface uniquement pour les compétitions de l'UEFA. Pour la FIFA, il n'y en a pas.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai que c'était une...
On l'a vu au Luxembourg samedi soir, il n'y avait pas d'arbitre de surface.
On a surtout vu qu'il ne servait à rien.
Racontez-nous, Bruno, on va en venir sur l'utilité, mais restons sur la technologie pour le moment et sur le côté technique. Quatre phases de jeu uniquement, c'est-à-dire que... Alors déjà, une chose, est-ce qu'on peut se parler dans les deux sens ? C'est-à-dire l'arbitre central qui est sur le terrain va dire tout d'un coup « Allô, est-ce qu'il y a pénalité ?» ou quoi. Mais est-ce que dans l'autre, il peut être interpellé ?
Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Ce soir, prenons un exemple. L'arbitre allemand valide un but, mais il a un doute sur la validité du but. Il pense que peut-être l'attaquant qui a marqué est hors-jeu, ou que peut-être il y a eu un contrôle du bras avant qu'il marque le but. Donc il va interroger l'arbitre assistant dans son quart vidéo en disant est-ce que le but est valable, est-ce qu'il y a une faute ou pas. Donc ça marche dans les deux sens. Par contre, si l'arbitre ce soir valide un but alors qu'il est marqué hors-jeu, là c'est pareil, l'arbitre vidéo va intervenir par le micro et va donc dire à l'arbitre qu'il faut le refuser. Donc ça marchera, la communication marchera dans les deux sens.
Alors, quatre cas précis. Hein,
oui, il faut les rappeler peut-être. Oui.
Allez-y.
But marqué, donc est-ce que le but est entaché d'une faute ou pas, on pense à la main de Maradona et compagnie. Penalty dans la surface, est-ce qu'il y a un doute sur la faute ou pas, est-ce que la faute existe ?
Est-ce que c'est dans la surface et tout
est-ce ça ? Que c'est dans la surface ? Troisième, il siffle une faute assez méchante d'un joueur, il hésite entre le carton jaune et le carton rouge. Donc c'est l'arbitre vidéo qui va lui dire. Et enfin, il se trompe d'identité, il veut avertir le numéro 5 et il avertit le numéro 6. Voilà. Voilà les quatre cas concrets où l'arbitrage vidéo pourra rentrer donc en ligne de compte.
Quel est le temps de latence en termes de réactivité? Parce que moi, c'est ce qui me pose problème en fait. C'est dans la réactivité de...
Que ça fasse pas comme le rugby.
C'est-à-dire qu'en imaginant, voilà, il y a un dribble, le joueur est taclé, l'arbitre de centrale décide de ne pas siffler. À quel moment on lui annonce qu'il y avait pénalty? Parce que s'il y a une contre-attaque, à quel moment on lui dit il faut que t'arrêtes le jeu? Parce qu'en fait, il y avait déjà pénalty 15 secondes avant.
C'est vrai, c'est d'ailleurs l'argument des anti-vidéo, en disant que ça va freiner, ça va casser le rythme de la rencontre. Et même pire, si ce soir, l'arbitre vidéo ne tranche pas sur une action, l'arbitre central a le pouvoir d'aller voir l'écran de contrôle près du banc de touche pour aller lui-même prendre la décision. Ça peut arriver
ce soir. C'est ce qui s'était passé, parce que on rappelle quand même, faut replanter le décor. Alors d'abord, c'est un débat qui existe depuis
très longtemps.
Les tests ont débuté il y a quelques mois, parce que c'est le board, c'est-à-dire pour nos auditeurs, le bureau des sages qui décide un peu
les
l'évolution des lois et des règles de ce sport.
Selon Salim, ils sont pas si sages apparemment.
Enfin bon, et si jeunes.
Il reste les garants. Ça, c'est ce sport qui veut ça. Donc, il a donné son accord. Il y a un an pour expérimenter cet arbitrage avec assistance vidéo. L'objectif, c'est clair, c'est de voir si on peut l'utiliser pour la prochaine Coupe du Monde. Et la prochaine Coupe du Monde, c'est dans un peu plus d'un an maintenant, hein, en Russie, en juin 2018. Alors en septembre dernier, il y avait eu des premiers tests lors d'Italie-France, mais sans incidence sur le jeu, c'est-à-dire que là, l'arbitre n'était pas forcément prévenu, c'était juste pour voir un peu. Et puis à nouveau en décembre, donc au Mondial des clubs, cette fois, il y avait eu un vrai impact, puisque l'arbitre central, en demi-finale, avait interrompu le jeu, avait demandé à voir les images et avait accordé un pénalty après visionnage de ces images. Donc ce soir au Stade de France, France, c'est une première, mais par exemple, dans un an, la Coupe de France, les deux coupes nationales, Coupe de la Ligue et Coupe de France, à partir des quarts de finale, donc au minimum pour 14 matchs, enfin pas au minimum, pour 14 matchs, il y aura cet arbitrage vidéo qui sera mis en place.
Bruno, c'est complémentaire de l'autre technologie qu'on appelle la goal line technologie, c'est-à-dire cette espèce de lecture vidéo sur la ligne de but pour savoir si le ballon est rentré ou pas?
Oui, ça c'est une vraie avancée. Hein. Maintenant, il n'y a plus de polémique, vous avez vu, il n'y a plus de polémique. Bah, une fois ou deux, je crois que le système était un peu en panne. Je crois un match à Toulouse contre Bastia, je crois que les Bastiais s'étaient plaints que le système ne fonctionnait pas.
Il y avait eu un match à Bordeaux où la couleur du maillot de Carasso gênait par rapport au ballon aussi.
Voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai plus. Maintenant, il n'y a plus de polémique. Le ballon a rentré.
Mais c'est complémentaire, donc.
C'est complémentaire, tout à fait. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Mais ça vient, la vidéo vient en aide, quoi, à l'arbitre aujourd'hui.
Alors, quel est le temps de latence? C'est la question à Big Bay.
Eh ben, je dirais le plus rapidement possible. Faut pas qu'il mette 5 minutes à réfléchir pour voir s'il y a penalty ou pas. Hein. Faut que ça se fasse très vite.
Même à l'écran, des fois, il y a un doute. Il faut absolument demander le ralenti pour...
Mais il y aura des doutes. Prenons par exemple le penalty qui a été sifflé contre les Parisiens au Barça, le dernier, en fin de match.
Qui fait polémique.
Qui fait polémique. Vous mettez 10 arbitres face à cette image. Peut-être 3 ou 4 vont vous dire qu'il y a un penalty.
Non.
Et 4, 5, d'autres. Et d'autres vous diront.
Si 3 arbitres vous disent qu'il y a penalty, c'est 3 arbitres malhonnêtes.
Et 7 autres vous diront qu'il n'y a pas penalty. Parce que ça restera toujours de l'appréciation, ça relèvera toujours de l'appréciation.
Et pourtant, exactement le même penalty en faveur de l'Argentine face au Chili, jeudi soir dernier, avec une faute sur
Di Maria, c'est exactement la même. On va déplacer le problème, donc il faudra, à mon avis, penser à protéger les arbitres vidéo dans les tribunes bientôt, parce qu'ils seront aussi contestés.
Donc ça ne s'arrêtera jamais.
Mais il n'y a pas que les protéger dans les actions. Ce soir, ils sont dans un van à l'extérieur du stade.
Oui, c'est ce que nous disait Bruno. Mais alors Bruno, justement, le sélectionneur espagnol a le même souci qu'Abi, puisqu'il dit qu'il faut appliquer cela de manière proportionnée pour que le foot ne perde pas sa fluidité et son charme, mais il ajoute, il y aura toujours des polémiques. Alors moi, je voudrais savoir, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que finalement, on dit qu'on met l'arbitrage vidéo pour qu'il n'y ait plus de polémiques, et puis finalement, on a un sélectionneur qui nous dit, de toute façon, il y aura toujours des polémiques.
Ma chère Annie, ce qu'on empêchera, c'est la main de Maradona, c'est la main de Thierry Henry, c'est un but hors-jeu de 3 mètres. Voilà les gros cas concrets, clairs et nets, sans aucun...
Ceux qui font la contestation,
c'est-à-dire 3-4 situations dans l'année, point barre, c'est tout.
Comment on va écrire des livres?
Après. Mais je suis d'accord. Moi, je suis de ceux qui pensent, et j'en terminerai là, que l'injustice.
Bertrand Castor, il écrit des livres.
Je pense que l'injustice nourrit la légende du sport. On ne saura jamais, et c'est tant mieux, si le deuxième but anglais a franchi la ligne en 1966 lors de la Coupe du Monde. Ah ouais. On le saura jamais. Et c'est pour ça aussi qu'on aime le foot, pour cette part de hasard et d'incertitude.
Il
y en aura de moins en moins.
Il y en aura de moins en moins.
C'est pour ça que l'arbitrage à visage humain aussi, il faut essayer de le conserver.
Oui, après, effectivement, l'exemple a été pris, vous allez voir une vidéo, Olivier à côté de moi va dire, il y a faute, moi je veux dire, il n'y a pas faute.
On sera sûrement pas d'accord.
Voilà. Et la subjectivité de l'arbitre, même s'ils connaissent les mêmes règles, même s'ils ont appris ça de la même manière, eh bien, parfois, les interprétations ne sont pas les mêmes. L'exemple des pénalités.
C'est surtout, Salim, le vrai problème qu'il va y avoir, c'est que, par exemple, en NFL, il y a le replay vidéo qui montre à tous les joueurs ce qu'ont décidé les arbitres. Là, l'arbitre va dire, les deux de la vidéo ont dit qu'il y avait pénalty. Tu t'imagines la frustration des 11 mecs sur le terrain qui, eux, ne vont pas revoir cette action, sont toujours sur leur aspect du direct. Tu vas avoir les mêmes discours.
Pas besoin d'aller en football américain. En rugby, où on a l'exemple le plus connu de tous, et y compris de nos auditeurs, au rugby, pendant que l'arbitre vidéo visualise, c'est sur les écrans géants du stade. L'arbitre de champ regarde en même temps.
On ne le fait pas.
Mais au football, la diffusion des images,
on ne le fait pas.
Pas très claires, sont interdites dans les stades pour éviter
donc
des mouvements de foule.
Rien,
pour éviter des mouvements de foule des supporters dans les tribunes.
Mais
quand une image
foule,
peut être interprétée, il faut faire attention à ne pas la diffuser.
Les mouvements de foule et les mouvements des joueurs sur le terrain, elles existeront toujours. Moi, demain, on me dit, ah bah tiens, 15 secondes avant, ils ont regardé une vidéo et il y avait pénalty. Si j'estime qu'il n'y a pas pénalty, je vais être en révolte totale, même s'il y a deux mecs qui sont dans une petite guitoule en train de regarder un écran.
Absolument, il faut montrer les images à tout le monde.
Ah oui.
Et après, quand la décision est prise.
Chacun après
se fera son propre dire, ah oui, effectivement.
Donc il y aura autant d'arbitres.
Ça ne pose pas de problème. Ouais. Mais les publics ne sont pas les mêmes.
Non, je suis pas sûr. On va encore en parler de la vidéo. Vous allez
oui,
voir,
mais on va
on
en parler parce que.
Des polémiques.
Moi, je voudrais poser une question à Habib. Et est-ce qu'on ne peut pas craindre, parce que c'est ce dont on parle aussi souvent, la FIFA étant universaliste, est-ce qu'il y aura pas un football à deux vitesses? C'est-à-dire qu'en Afrique, est-ce qu'on va aussi mettre la technologie, l'arbitrage vidéo partout?
On voit bien que la Golan est
C'est pourquoi Platini était contre.
Bien sûr.
La goal line technologie n'existe pas partout.
Bah non.
Donc c'est un souci, c'est-à-dire que à partir du moment où on crée quelque chose, il faut le créer dans tous les championnats, dans tous les footballs, sur tous les continents. Moi je trouve que malheureusement il y a une inégalité qui se fait et on sait très très bien pourquoi ces systèmes sont mis en place. C'est un système qui est économique parce que les grands clubs aujourd'hui se rendent compte que parfois des compétitions ils peuvent les perdre sur un fait de jeu et que eux aujourd'hui vont dans le sens de cette technologie parce qu'ils veulent un football parfait avec des règles
des parfaites,
parfaits, avec des résultats parfaits. Sauf qu'on connaît à un moment donné l'inégalité et puis le hasard du football et puis comme on dit les légendes
sauf,
sur les.
Mais je suis d'accord avec toi, mais sauf qu'on n'accepte plus l'erreur des arbitres. Ce sont tout de suite les boucs émissaires. C'est tout de suite les levées de bouclier, c'est terrible. Donc moi je pense aussi que l'arbitre fait partie du jeu, l'erreur fait partie du jeu, on devrait l'accepter au même titre qu'un entraîneur dans ses choix tactiques, qu'un attaquant qui passe à côté, qu'un président qui fait des mauvais choix. Un arbitre aussi peut avoir un...
Oui mais ils l'accepteront pas.
Mais on n'acceptera jamais, jamais, c'est systématiquement l'arbitre.
Il a
choisi son camp, on a joué à 12 contre 11, vous avez vu l'arbitre.
Ben, il y a des erreurs qui sont pardonnables et d'autres qui sont...
Ben, peut-être que la vidéo permettra justement de corriger les énormes erreurs.
Oui, les énormes erreurs.
C'est impardonnable. Après,
mais après, le souci de cet exemple-là, ce soir, c'est ces fameux arbitres qui auront donc les écrans, qui auront donc les ralentis. Eux, entre guillemets, on leur pardonnera pas. On leur dira, mais attendez, vous avez tous les ralentis. Il y a 23 caméras qui sont ce soir autour de ce stade. Donc, vous avez possibilité d'avoir 23 ralentis, entre guillemets. Si vous n'arrivez pas à voir quand même la fameuse faute, mais là, vous êtes vraiment fautif, vous le cherchez. Mais... Et malheureusement, ils sont encore plus critiqués, ces deux arbitres.
Vous vous souvenez d'une fois en Coupe du Monde, alors je ne me souviens plus trop quelle était la rencontre, mais où on avait contesté une décision d'un arbitre et quelqu'un avait trouvé dans son portable, je crois, plusieurs mois après.
Brésil-Norvège, 1998, oui. Le deuxième but
norvégien. Plusieurs mois, c'était quelques jours après.
Contesté pendant deux jours, oui. Précisément, et en fait, c'était une caméra suédoise qui était derrière le but brésilien.
Qui avait donné raison à l'arbitre.
Non, mais deux jours après.
Et je peux vous dire que.
Autre époque, autre mœurs et autre technologie.
Je peux vous dire que c'était un penalty qu'il avait sifflé pour un tirage de maillot. Et lui seul avait vu la faute.
Ouais.
Et je me souviens, cet arbitre américain, je l'ai rencontré parce que il a dirigé le tournoi de Toulon avec moi deux ans après. Et il a mis un terme à sa carrière après ce match parce que la FIFA l'a ramené chez lui aux États-Unis en disant, t'as fait une connerie. Mm-hmm. Et trois jours après, une image a montré qu'il avait pris la bonne décision. Il a été démoli par ce match et par tout ce qu'on a vu.
J'ai vécu un autre exemple. Argentine-France, 78, le penalty sur Trésor. Le lendemain soir, je tombe en boîte de nuit sur Monsieur Duba, l'arbitre suisse du match. Je discute avec lui et je le cuisine un peu et il me dit c'est vrai.
Mais t'es en boîte de nuit là. Alors.
J'ai revu les images. Si c'était à refaire, je ne sifflerais pas penalty.
Mais qui a la main dans ce...
Et il avait été sanctionné suite à ça, d'ailleurs, parce que j'avais fait un papier là-dessus.
C'est beaucoup de casseroles sur le football argentin. J'espère heureusement que le réfé n'est pas là. On voit bien qu'il n'est pas là.
Mais la Coupe du Monde est en Argentine. Sous le général Videla.
Oui.
Et on n'a pas encore dit que Messi était suspendu pour 4 matchs. Oula, réfé. Ouh, pardon.
Mais ils peuvent se tromper, on est d'accord, dans leur petite cabane.
Ah bien, bien sûr.
Donc, en imaginant qu'ils donnent à l'arbitre
du centre, dans la cabane.
Non, mais c'est vrai, ils peuvent se tromper.
Non, mais encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, s'ils n'arrivent pas à trancher, ce soir, l'arbitre pourra aller voir lui-même l'image sur l'écran de contrôle près des bancs. Et c'est lui qui prendra, au final, la décision.
Moi, je dis bonne chance. Ça va prendre du temps, tout ça.
Je pense, d'abord, on l'expérimente. Donc, si manifestement, c'est pas concluant.
Test,
si c'est pas concluant,
Bon, j'annonce ce soir, le match finira à 23h56.
Oui, mais vous dites...
C'est pas France-Galles rugby.
Pas de pronostic sur le score, mais sur la durée du match.
Bruno, vous dites c'est en test et si c'est pas valable, on va tout remballer. Mais apparemment, la machine s'est mise en route puisque Gianni Infantino dit déjà qu'il veut que ça soit mis en place en Russie,
Mais il est à fond,
en Russie 2018.
Il est à fond pour, ça c'est clair.
Oui, lui, il est plus jeune.
On prend une pensée pour Michel Platini parce que lui, il était contre.
Justement,
terrible.
On parlait de Michel Platini, mais Patrick, qu'aurait dit Raymond Kopa? Est-ce qu'il avait une opinion que vous avez entendue au sujet de l'arbitrage vidéo? Lui qui a joué à un autre... sur une autre dimension, on va dire.
C'est-à-dire que lui, à son époque, en plus, la télévision, c'était des balbutiements. Hein,
oui.
Les matchs, moi, je me rappelle avoir vu France-Brésil en Suède, la télévision, en noir et blanc, des images pas très nettes. Il avait du mal à se faire avec le football moderne, effectivement. C'était le côté un peu...
Nostalgique?
Nostalgique, non, mais disons que l'argent prenait trop d'importance dans le football.
Mmh.
Il disait que c'était un peu dommage.
Alors justement, Patrick Burkhalter, vous êtes là parce que il y a ce livre Kopa par Raymond Kopa qui est réédité, puisque Raymond Kopa, ce si grand joueur français, nous a quitté le 3 mars dernier. Un livre donc chez Jacob...
Non. Chez Louis de
Mareuil. Pardon, chez Louis de Mareuil, c'est ça. Et avec une préface de Zinedine Zidane. Et justement, vous, vous avez co-écrit le livre avec lui. Comment c'était? Vous teniez un stylo à deux mains ou l'un écrit, l'autre corrige? Ou c'était comment?
Non, non, mais on parlait et je...
Vous teniez le stylo
derrière. J'avais passé des journées avec lui, on se téléphonait... et puis voilà, et en plus, moi, je suivais sa carrière depuis tout jeune. C'était l'idole de mon enfance. Si j'ai fait une carrière de journaliste sportif, c'est parce que Raymond Coppa m'a donné la passion du football. Voilà. Et c'est très bien d'en parler aujourd'hui parce que ce soir, c'est France-Espagne. Et c'est un match contre l'Espagne en mars 1955 qui a révélé Raymond Coppa et qui a aussi donné une impulsion à l'équipe de France. Coppa devenant le premier joueur à être transféré avec une somme qui, à l'époque, était phénoménale.
Au Real Madrid.
Pour le Real Madrid, a acquis au sein du Real, avec, en jouant avec Di Stefano, une stature énorme. Alors qu'ils avaient fait une Coupe du Monde 54, catastrophique, que ce match contre l'Espagne, tout le monde disait que vous allez prendre une raclée. Si vous perdez 4-1, ça serait formidable. Et ils réussissent à battre l'Espagne au Stade Chamartín, devenu après Stade Santiago Bernabeu.
Les Français battent les Espagnols.
Coppa égalisant et donnant la balle de but à Jean-Vincent. Victoire 2-1. Monsieur Bernabeu dans les tribunes disant à son secrétaire général Raimondo Saporta, il nous faut Coppa au Real. Et en plus, un journaliste anglais qui était là, dans l'optique d'un match contre l'Angleterre au mois de mai suivant, baptise Coppa, le Napoléon du football, en disant « Attention, messieurs les Anglais, les Français ont leur Napoléon du football.
» Et
donc,
la guerre,
il a pris une dimension énorme. Il y a eu la Coupe du Monde 58, où il a été élu meilleur joueur et livre d'or. Et l'équipe de 58 a donné une impulsion terrible au football français. Le football français n'était pas reconnu à l'étranger. Et il a fallu, justement, Raymond Coppa, l'équipe de 58... pour donner une envergure au football français. Et aussi pour les jeunes, il faut se rappeler un peu de l'histoire, si les jeunes footballeurs aujourd'hui ont acquis des libertés au niveau de la durée des contrats, c'est grâce aux footballeurs de 58. Eugène Joléa, footballeur camerounais, devenu avocat, avec Juste Fontaine, ont créé le syndicat des joueurs, l'UNFP. Coppa, en 2 ans après la création du syndicat, a eu ce cri d'alarme dans la presse. Les joueurs sont des esclaves, parce que les joueurs étaient liés à vie au club. Et le club pouvait en faire ce qu'il voulait, comme de la marchandise, en disant bon, « Je vous ai vendu dans tel coin et tout. »
Et il était suspendu 6 mois pour ça.
Et
la fédération l'a suspendu dans la foulée.
Et Coppa, lui, avait choisi Real parce qu'il était demandé aussi en Italie, parce que le Real... au terme de son contrat de 3 ans, le laissait libre. Ça a été le premier joueur à acquérir sa liberté à l'issue d'un contrat. Et donc, ce contrat à temps, qui a été appelé contrat à temps, est intervenu quand même en 69. Mais depuis, tous les footballeurs dans le monde ont bénéficié.
C'est marrant d'ailleurs parce qu'il a été le premier joueur suspendu 6 mois pour avoir osé dire ce genre de choses et il sera aussi le premier sportif à qui on mettra la Légion d'honneur.
En 70.
Tout
à fait.
Donc
mais
on passe d'un extrême à l'autre.
Beaucoup de domaines, hein.
Et le premier sportif à faire de la pub aussi.
Oui, mais il a eu son entreprise.
Il était avant-gardiste, il avait raison dans tout le monde.
Dans tous les domaines, ça a été le premier consultant.
Oui.
Premier footballeur consultant.
Vous voyez, lui, vous avez... Oui,
vous êtes gentil, mais il n'a eu qu'un club, c'est le Stade de Reims, et puis c'est tout.
C'est
le Rémois de cœur qui parle.
D'ailleurs quand on se téléphonait là, ces derniers temps, il était toujours catastrophé par l'équipe de Reims en disant ils peuvent pas, dans ces conditions, se maintenir en première division. Là, je les vois pas monter, c'est un peu jeune. Et il est vraiment Rémois, il était Rémois au fond du cœur.
Deville, d'ailleurs...
Il lui a rendu un très bel hommage, d'ailleurs.
Alors, Reims lui a rendu un très bel hommage et veut construire une statue devant le stade Auguste Delaune à son honneur, puisqu'il a écrit les grandes pages de ce club dans les années, à la fin des années 50. Et puis, le conseil municipal de la ville d'Angers, où il résidait, il a joué pour le SCO quelques années et il est décédé à Angers, veut a décidé de débaptiser le stade qui s'appelle Jean Bouin pour baptisé le stade d'Angers municipal.
Faut dire que les stades Jean-Brouin, il y en a à peu près 3000 en France. Ouais. Donc,
le Real Madrid aussi lui a rendu un très bel hommage. J'étais aux obsèques à Angers. Il y avait Florentino Pérez, le président du Real, Butragueño, ils étaient là. Et d'ailleurs, c'était à la sortie de la cathédrale, c'était la star, c'était Florentino Pérez, parce que le Real, pour tout le monde, c'est le club.
Le grand club.
Et c'est vraiment un grand club, parce que le 7 janvier dernier, le Real avait envoyé un jet privé à Angers pour venir chercher Raymond Coppa et sa femme pour être présent à la remise du 4e ballon d'or de Cristiano Ronaldo. Il voulait que tous les joueurs du Real ayant obtenu le ballon d'or soient là. Et il avait fait venir un jet privé.
Et l'été dernier, il y avait eu un match, comme il y a régulièrement, entre le Real Madrid
et
le Stade de Reims. Alors que le Stade de Reims, finalement, actuellement, n'est qu'une équipe.
Pour commémorer la finale de la Coupe d'Europe 56.
Exactement. Exactement. Il y avait Michel Hidalgo, il y avait Raymond Coppa. Ouais. Et il disait que quand ils se réunissaient, ça faisait un peu les vieux cons qui se retrouvaient là-bas. Mais en même temps, avec un plaisir, évidemment, énorme.
Il en reste quelques-uns, c'est bien.
Et les obsèques, d'ailleurs, j'ai retrouvé... il y avait Juste Fontaine, bien sûr, Dominique Colonna, et un joueur que j'ai adoré et que je n'avais pas revu depuis l'époque où il jouait, c'est Lucien Muller, qui a joué au Barça, au Real, un très très grand joueur aussi.
Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter, vous qui avez coécrit avec lui, c'est-à-dire vous avez, en dehors de tout ce qu'on sait sur lui, parce que finalement on connaît sa magnifique carrière, on connaît plein de choses, mais une anecdote ou deux de Raymond Coppa?
Ah, il m'a dit qu'il s'était dopé une fois.
Au champagne.
À la mi-temps d'un match, la première mi-temps avait été catastrophique, ils avaient dit hop, il y a des bouteilles, on boit un coup, ils avaient bu une coupe de champagne. Et il s'était imposé à l'issue du match. Et d'ailleurs, il a joué jusqu'à 70 ans. Hein. Il faisait les matchs de vétérans. Et il me disait, je dribble toujours autant. Et on essaye toujours autant de me casser. Et dès qu'on me file un coup, je m'en retourne vers celui qui m'a donné un coup. Et je lui dis, ça va, je t'ai pas fait mal?
Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de Raymond Coppa qui a disparu à peu près donc un mois.
Début du mois.
Ouais. Donc Coppa par Raymond Coppa aux éditions Mareuil, Collection Sport, et vous avez donc co-écrit ce livre avec lui.
C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste.
Pourquoi vous souriez à Bibay?
Non, parce que c'est un peu ça.
Parce qu'il est consterné.
C'est pas juste.
Je crois qu'il est comme beaucoup juste. Consterné.
Vous avez tous compris. Et oui, Calimero, Ben Arfa, même combat, hein, on peut dire. Le ton, en tout cas, du petit poussin noir des dessins animés de notre enfance, ou moins notre enfance d'ailleurs, a presque la même tonalité, eh bien, qu'Atem Ben Arfa, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a surpris ce week-end en révélant, eh bien, son spleen. Et c'est sous la forme d'une vidéo très intimiste.
Je revendique rien ici. Ni un temps de jeu, ni un poste précis. C'est juste que je veux vraiment qu'on me donne ma chance et que je sente qu'il y a vraiment une concurrence dans cette équipe. Je suis un compétiteur, je suis un champion. Dans ma tête, je suis vraiment quelqu'un qui aime la gagne. Et c'est compliqué d'accepter cette situation, d'être remplaçant.
Alors, il a eu ces quelques déclarations, beaucoup de commentaires évidemment sur les réseaux sociaux, puisque c'est là que ça a été diffusé. Certains quand même ont critiqué en disant il s'est tiré une balle dans le pied. Alors hier soir, eh bien, il a recommencé. Atem Ben Arfa, écoutez.
La chose que j'ai appris cette année, c'est que j'ai réussi à acquérir la patience. C'est la chose qui me faisait défaut quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un de très patient.
Ouais, c'est vrai, il est patient. On l'a bien compris. Regardez, Habib, c'est Calimero numéro 2.
Non, pas du tout. Mais c'est
dites-nous, Habib, vous en tant qu'ancien joueur. Alors évidemment,
mais c'est et puis il le connaît.
Non, mais je l'aime beaucoup. J'ai de la compassion pour Atem. Je l'aime beaucoup. C'est un joueur extraordinaire.
Mais non, mais on a un fan derrière la vitre, là. Et il est tout triste, Julien Link, d'entendre son joueur préféré.
Oui, parce que c'est un bon garçon, réellement. C'est vraiment un bon garçon, sauf que c'est une catastrophe de communication.
Mais moi, je suis pas d'accord.
Je suis désolé, c'est une catastrophe de communication. On est dans un monde aujourd'hui qui est quand même le football, où vous devez avoir une responsabilité par rapport à ce que vous êtes. Il est dans un grand club. Déjà, c'est pas véhiculé par le club, donc déjà c'est une erreur, puisque c'est quand même, pour moi, faire du tort au club qu'est le Paris Saint-Germain. On l'a dit, une institution, elle doit être cadrée, et ça, c'est quelque chose qui est hors cadre. c'est les états d'âme d'un joueur qui est aujourd'hui en difficulté, qui ne joue pas. Mmh. On peut le comprendre.
Pas assez.
On peut le comprendre. Après, je crois qu'aujourd'hui, il y a des outils de communication qui sont bien plus intéressants que ce qu'a fait ATM là dans cette vidéo.
Moi, je pense que quand un joueur s'épanche comme ça sur la place publique, c'est qu'il est déjà en interne, il a essayé de faire passer son message et que son message n'a pas été entendu. Moi, j'ai regardé la première vidéo, j'ai préféré la première à la deuxième où il est avec un costume en lycra bleu, là. Je sais pas si vous l'avez vu, celle-là. Elle est pas top top, la deuxième.
Non, mais... Je trouve que les je sais pas mots... comment on peut préférer l'une à l'autre. Les mais deux sont tellement ridicules.
Non, mais les mots, enfin, il y a quelques mois ou quelques années, il aurait sorti d'autres mots pour sulfater, quoi. Pour son statut actuel, je trouve qu'il a trouvé les mots choisis. Il n'y avait pas vindicatif.
Ouais, mais Bono s'est mis en scène. On a l'impression que c'est un candidat.
On va dire un feuilleton.
C'est sincère, c'est gentil, mais c'est inutile, mais pourquoi, surréaliste.
Il aurait fallu quoi faire une interview dans l'équipe. Bono, est-ce que tu penses que tu peux ressortir quelque chose de positif? Est-ce que tu penses que Unai Emery, lorsqu'il regarde cette vidéo, va se dire bon, bah, je vais laisser la chance à Benatia.
Justement, parlons-en. Je crois qu'il y a un problème au Paris Saint-Germain.
Oui.
Quand on voit la vidéo, le Serge Aurier, ce qui s'est passé, Ben Arfa.
Je préfère la vidéo de Ben Arfa que celle de Serge Aurier.
Non, mais il y a ça, il y a le Serge Aurier sur le terrain qui n'était pas prêt pour.
Il sort des chaussettes.
On se dit, mais qui gouverne dans ce
club ? Il y a tout un tas de premières. La première des insultes sur Periscope, la première d'un type qui n'est pas prêt à jouer, qui met 20 minutes à se changer, la première remontada historique de Barcelone, l'entraîneur prolongé l'année dernière et puis qu'on limoge et ça coûte 20 millions d'euros. Il y a beaucoup de premières. J'ai entendu ça sur une autre radio française. Il y a beaucoup de premières, mais c'est toujours le même club.
Et malheureusement,
il y a un côté un peu ridicule.
Atem Ben Arfa, il a joué actuellement, mais on y reviendra sur le sujet. 1053 minutes et il n'a pas marqué encore de but en Ligue 1.
Donc il a eu sa chance.
Apparemment. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé. Merci aussi à Julien Ling et à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Et à demain. RFI.